C.I.
Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 1h.
Ici soutient la musique locale.
Odem avec Amoureux.
Je me sens amoureux de ce silence, je me sens amoureux de cette musique du soir qui s'avance.
Il a été révélé dans l'émission The Voice.
Je me sens amoureux de la lumière, amoureux de chaque seconde magique, la nuit se resserre.
Ce chanteur marseillais corse a vraiment tout pour plaire.
Sur un soir, ça dure toujours. C'est de la vie qui tourne autour.
Une voix puissante sur une musique entraînante, succès assuré.
J'aime tout ce qui crame et ce qui se couche. J'aime tout ce qui se crie, ce qui se joue. J'aime tout couché debout, je suis fou.
Odem, un coup de cœur, ici Provence.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Poitou.
Et on retrouve Patrick Citeau qui nous emmène chaque week-end découvrir les communes de notre Poitou. Ce matin, Patrick, vous évoquez l'histoire de Mellerand, une commune des Deux-Sèvres qui a vu naître la femme de lettres Claire Sainte-Soline.
Intéressons-nous dans un premier temps aux origines du nom de cette commune située près de Mel. C'est le mot latin mel, qui veut dire miel, qui donne le point de départ de la dénomination de la commune. Une production de ce mets sucré devait ainsi exister aux origines de la bourgade. Le préfixe « rang » proviendrait pour sa part du mot « ranque » qui signifie « boiteux ». On ne sait comment les deux particules se sont trouvées unies pour venir former le nom de la commune. Toujours est-il que cette partie du territoire de Sévrien a vu naître la femme de lettres Claire Sainte-Soline. De son vrai nom, Nelly Eva Fouillet, elle y voit le jour le 18 septembre 1891. Son père, Pierre Fouillet, qui sera maire de Niort de 1932 à 1935, et sa mère, Henriette Léontine Barbeau, sont instituteurs. Jeune fille, Nelly Fouillet fait des études brillantes à Niort. Elle poursuit son parcours scolaire à l'école normale supérieure de Sèvres à Paris. Elle y obtient une double agrégation de sciences physiques et naturelles et de physique-chimie. Suivant les traces de ses parents, Nelly Fouillet devient professeure. Elle enseigne successivement à La Châtre, Blois, Grenoble, Auxerre et Paris.
C'est en 1934 qu'elle publie son premier roman sous le pseudonyme de Claire Sainte-Soline, Patrick.
Intitulé « Journée », le roman évoque la vie d'un village des Deux-Sèvres. Une des communes du département, Sainte-Soline, située près de son lieu de naissance, lui a d'ailleurs inspiré son nom d'auteur. Tout au long de sa carrière d'écrivaine, elle expérimente de nombreuses formes. Romans, nouvelles, essais, recueils de témoignages, récits de voyages et vulgarisations scientifiques sont ainsi au cœur de ses travaux littéraires. Au total, elle publie une vingtaine d'œuvres dont certaines ont marqué l'époque. Le Dimanche des Rameaux, publié en 1952, est notamment une belle réussite. La parution du recueil de nouvelles Mademoiselle Olga en 1954 reçoit également les éloges des critiques littéraires. En 1957, son écriture précise et rigoureuse, héritée de sa formation scientifique, fait mouche. Avec son roman intitulé « La mort de Benjamin », elle connaît une belle renommée. Le livre manque en effet d'une voix le prix Fémina. Dès l'année suivante, elle entre au jury de ce prix. Elle est également membre du jury du prix du roman populiste. Claire Sainte-Soline s'éteint le 14 octobre 1967 à Paris. Elle est inhumée le 17 octobre suivant au cimetière des Sablières à Niort, où elle repose avec ses parents.
Merci Patrick Citeau pour cette découverte de la commune de Mellerand.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Touraine.
Si je vous dis le peuple migrateur, l'école buissonnière ou encore Belle et Sébastien, les animaux de ces films vivent sur un domaine de 10 hectares à Beaumont Village, juste à côté de Montrésor. Je vous les présente avec Élodie.
Ici Touraine,
Les gens d'ici.
Donc, je m'appelle Élodie Campestrini-Bonté, j'ai 48 ans. J'habite en Touraine depuis mon enfance. Très spécifiquement, j'étais de Mouzé. Je suis directrice de la société Les Animaux du Film. Alors, au départ, c'est l'entreprise de Monsieur Lefranc qui, dans les années 80, a développé tout ça. Donc, aujourd'hui, on en est là. Notre activité, c'est d'imprégner des animaux de la faune sauvage européenne pour le cinéma, les documentaires animaliers, les reportages, les publicités ou autres. C'est un métier de patience, d'affection avec les animaux. C'est un métier qui est une vocation, en fait.
Donc là, sur notre gauche, moutons, biquettes.
Qui sont demandés pour le spectacle des Baudins. Les animaux de la ferme des Baudins, ce sont nos animaux.
Les stars à quatre pattes.
Les cochons des Baudins. Donald et Junior.
D'accord.
Chez nous, c'est tout le monde cohabite. Là, on a des goélands. Deux goélands acteurs qui sont perchés là-haut. Ils ont plein de dates retenues là, pour l'année 2026.
Et comment on fait quand ils n'ont pas envie d'écouter?
Dès lors où il y a une caméra, l'animal, il joue le jeu. Et ça, c'est inexplicable. Après, si vraiment l'animal n'a pas envie, il n'a pas envie. Il ne veut pas et nous, on ne le forcera pas. Là, il a l'air de dire oui. Pour le prochain, il a l'air partant. Alors, on est appelé par des productions qui, elles, ont des idées. Qui nous demandent souvent des conseils. Est-ce que l'animal peut faire? Est-ce que ce n'est pas possible? Nous, on essaie toujours de les guider pour avoir le plus du naturel chez l'animal.
Nature, peinture, comme les sangliers.
Et Janine et Tima, elles ont fait Candice Renoir, Capitaine Marlowe, etc. Elles ont fait des publicités aussi. Donc, voilà, ce sont des actrices confirmées.
Oh.
Donc là, on a deux filles.
Ouais.
Donc la maman, la fille. Des écureuils absolument adorables. Et on a le papa qui, lui, fait beaucoup de réserves de nourriture en ce moment. Il aime bien.
D'accord.
Donc il va cacher les noisettes dans son hamac. Mais globalement, on a tous un petit peu notre chouchou. Hein. Donc voilà, donc j'avoue que j'ai beaucoup d'affinité avec les écureuils. Archimède, c'est un grand-duc.
Ouais.
Qui est fascinant, qui a des yeux incroyables et une posture incroyable et qui vraiment, j'ai hâte qu'il ait son heure de gloire parce qu'il est majestueux et magnifique.
Voilà,
Balthazar et sa biche, et donc leur fille, Félie. Le renard, le cerf, la biche, c'est des animaux qui sont fréquemment demandés.
Les Pierre Ninet, les François Civil du moment, quoi.
On peut dire ça, presque.
Vous êtes un peu manageuse, quoi, agent d'artiste.
Bah, ce sont des animaux acteurs.
Ouais.
Donc on est obligé, forcément, d'être leur ange gardien et de les proposer et d'expliquer tout ce qu'ils peuvent faire et effectivement de vanter leur mérite puisqu'ils en ont plein.
Écoutez Ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici Drôme Ardèche.
Dans Toujours à la page, je vous emmène dans une forêt extraordinaire. Extraordinaire et inquiétante à la fois. Celle de Chimère tropicale, dernier livre de Corinne Morel d'Arleux, paru chez Dalva. Femme politique repentie, écologiste convaincue, Corinne Morel d'Arleux a d'abord écrit des essais pour transmettre ses convictions, mais depuis quelques années, c'est aussi à travers le roman que cette drômoise a choisi d'exprimer sa fascination pour la nature. Et c'est en Inde du Sud, lors d'une résidence d'écriture, que l'autrice a imaginé cette histoire, l'histoire d'Ariane, infirmière en psychiatrie qui n'a jamais quitté ses montagnes, mais rêve de jungle. Alors le jour où un double accident d'avion improbable se produit dans une forêt tropicale éloignée, Ariane trouve l'occasion de rejoindre cet univers fantasmé. Un univers de moiteurs, de crocs, de mystères, de magie, où elle croisera un homme jaguar, des chamans, des morts inaccomplis et l'inquiétant Cadillac qui la poursuit comme une ombre. Vous l'aurez compris, la place de l'imaginaire dans le livre de Corinne Morel d'Arleux est centrale. Alors je lui ai demandé quelle était pour elle la place de l'imaginaire, son importance dans la vie.
Ouais, j'ai l'impression que c'est un sujet d'une actualité brûlante, cette question de la place de l'imaginaire. D'abord parce que j'ai l'impression qu'on est nombreuses et nombreux à avoir de plus en plus besoin de se réfugier dans l'imaginaire pour de temps en temps échapper au réel qui semble de plus en plus dystopique et difficile à affronter. Et ensuite, parce que l'imaginaire, c'est aussi ce qui nous permet éventuellement d'imaginer autre chose. Comment le monde pourrait être de manière différente, de cultiver une forme d'empathie aussi, de pouvoir se mettre à la place de l'autre, d'envisager qu'il puisse y avoir des réalités multiples et pas une seule manière d'aborder la vie, d'aborder les événements, les faits. Toute ma question, moi, c'est de savoir comment on nourrit nos imaginaires, qu'est-ce que ça nous permet de produire qui n'est pas encore là? Qu'est-ce que ça peut faire advenir dans nos vies?
Alors, dans ce que vous nous racontez, il y a de l'extraordinaire, il y a du magique, il y a cette jungle qui est presque hantée.
Oui, cette forêt tropicale, elle est à l'image de la symbolique de la forêt qui est à la fois dans l'imaginaire collectif, un endroit, un milieu qui attire et en même temps qui a souvent provoqué aussi la peur, la crainte, parce que c'est un lieu mystérieux, étrange, sombre. Parce que finalement, je trouve que c'est beaucoup à l'image de notre époque, de nos vies, d'apprendre à cheminer sur cette ligne de crête entre émerveillement et inquiétude. Et donc, c'est finalement assez logique que ça se soit retrouvé dans mon écriture et dans l'histoire de Chimère tropicale.
Chimère tropicale, c'est un objet littéraire étrange, un roman organique qui nous enlace, nous emporte, sans laisser voir ce qui relève de la réalité ou de l'illusion. C'est sûrement pour cela qu'il est présélectionné pour le prix Ouest France Étonnant Voyageur, verdict attendu le 24 mai 2026. En attendant, à vous de vous plonger dans ces Chimère tropicale parue chez Dalva.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur. Et nos podcasts. Un podcast ici La Rochelle.
Nous sommes dans les années 1970. Un ovni se pose à Chasseneuil. Dans cette soucoupe volante, attention, pas d'extraterrestres, mais des gens en maillot de bain.
L'histoire du jour.
Vincent Bretagnol.
Cette drôle de piscine en forme d'ovni est ce qu'on appelle une piscine tournesol. En fait, il s'agit d'un modèle qui a poussé en France dans les années 70 et qui a pour origine un programme lancé par l'État en 1969. Ce programme, nommé 1000 piscines, intervient dans un contexte marqué par deux événements. D'abord, le fiasco des nageurs français aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Ensuite, plusieurs noyades tragiques impliquant des enfants. Résultat, eh bien, il faut apprendre à tous les Français à nager, vite et partout. Pour cela, un concours est lancé afin de concevoir des équipements innovants, économiques et facilement reproductibles. Et le type tournesol est l'un des plus caractéristiques. Il est l'œuvre de l'architecte Bernard Scholler. Alors attention, 1000 mètres carrés au sol, 6 mètres de haut, cette piscine était révolutionnaire à l'époque. Il faut imaginer 36 arches métalliques qui soutiennent un dôme de plastique en partie escamotable et pivotant afin de profiter au maximum du soleil, d'où son nom, hein, le tournesol. Dedans, on retrouve tout le nécessaire, un bassin de 25 mètres, des vestiaires, des douches, bref, un vrai vaisseau spatial aquatique.
Mais cette piscine tournesol de Chasseneuil-sur-Bonnieure était-elle le seul modèle construit dans notre région ?
En France, entre 1972 et le début des années 80, il y en a eu 183 construites sur les 250 prévues au départ, dont 18 en Nouvelle-Aquitaine. Mais attention, hein, la moitié a déjà disparu, à l'image de celle qu'il y avait à Châtel-Aillon-Plage. Il faut dire aussi que ces piscines tournesol, eh bien, elles ont tendance à mal vieillir. Maintenir ces structures à flot, sans mauvais jeu de mots, coûte cher et les rénovations ne sont pas toujours simples à réaliser. C'est pour cela que la piscine tournesol de Chasseneuil est un vrai petit morceau de patrimoine des Trente Glorieuses, toujours bien vivant avec près de 40 000 usagers par an. Les gens sont sensibles à son charme rétro-futuriste, à ses petits carreaux de faïence ou à ses grands hublots. Alors en cette fin d'été, eh bien, si vous passez du côté de Chasseneuil, n'hésitez pas à aller piquer une tête dans cet ovni.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Garlozère.
Bonjour, c'est Christophe Mouton, donc le spécialiste de la brandade sur Nîmes. Je voulais parler d'une petite passion que j'ai, qui me tient à cœur depuis ma plus tendre enfance sur nos côtes languedociennes, c'est la pêche en mer. Voilà, je suis un passionné de pêche en mer, de toutes les pêches.
Alors contrairement à votre métier, puisque vous pratiquez et vous fabriquez la brandade qui est à la base de morue, on n'en trouve pas en Méditerranée, donc vous ne pêchez pas de la morue.
Non, mon grand malheur, il est là, quoi. Donc j'ai avec les carpes du jardin à la fontaine, ça n'a pas fonctionné
non
parce
plus.
Qu'elles devenaient roses et c'était pas terrible quoi pour notre brandade. Et donc je me suis rabattu sur le poisson de Méditerranée, bien sûr. Mais je vais y venir aller pêcher mes morues bientôt en Norvège, dans les pays froids.
C'est prévu.
Ah, c'est la finalité.
Ok. Alors, une pêche en Méditerranée, ça se fait comment ? Sur le bateau
Ben, y a beaucoup de pratiques, quoi. Hein. Alors, bon, c'est pas une pêche statique, comme on peut le voir, avec sa canne à pêche, son bob et en attente, quoi. Hein. Y a différentes pêches. En plus, on a les poissons actuellement qui sont en train de changer. On a des nouvelles espèces qui sont en train de regagner le rivage.
Et le pêcheur est de plus en plus malin. Et on vous a offert un beau cadeau il y a pas longtemps. Racontez-nous.
Il était au courant, Olivier. Ouais, effectivement. Mon cadeau de Noël, j'ai eu la chance de trouver au pied du sapin un drone. Donc, dès que je parle de cet appareil, tout le monde rigole. Me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec un drone ?
Un drone de pêche.
C'est vraiment un drone de pêche. Elles m'ont fait venir ça des États-Unis. C'est un drone qui peut tomber à la mer et qui se relève automatiquement et qui est surtout étanche, quoi, à tous les embruns, à toutes les conditions un peu dures. C'est vrai qu'à ces périodes un peu d'hiver, j'aime bien aller affronter les éléments avec mes grandes cannes et donc j'utilise ce drone pour pouvoir aller déposer mes appâts où je le souhaite parce que il y a énormément de vent, il y a énormément de vagues. Donc il faut braver quand la mer est déchaînée. Et maintenant j'ai plus la force pour jeter très loin et je n'arrive pas à atteindre le poisson. Et avec ce drone, ça me permet de pouvoir positionner mes appâts où je le souhaite.
Qu'est-ce que vous mettez comme appât ?
Ah ben là, en ce moment, c'est le bibi, c'est le couteau, c'est la coque rouge, voilà. Là,
donc il y a une petite pince sur le drone ?
C'est exactement ça. Il y a la pince, ça prend l'appât et ça va le déposer où je le souhaite. Alors les gens, quand ils me voient faire ça, ils me disent, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est cette pêche? C'est vraiment pour passer un moment et d'être au cœur de la nature. Moi, c'est ce qui me ressource.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Provence.
Je rêvais d'avoir une maison à la campagne. Cette maison, c'est comme si j'y étais née. C'est ma maison de famille.
Ma maison s'appelle l'Ostao de la Mar.
C'est une maison un peu envoûtante.
Eh bien, vous voyez, des livres et trois fenêtres qui me donnent le paysage du pays, comme si c'était trois tableaux.
Ils ont vécu ici.
Thibaut Gaudry.
Alain Delon, vous l'aviez rencontré sur un tournage?
Non, je l'ai rencontré dans la rue. Mais on a fait un film ensemble qui était Jeff et qui était un film qu'Alain désirait faire avec moi, donc ça a été aussi une rencontre.
En 1968, deux stars du cinéma français sont réunies pour la première fois à l'affiche de Jeff, un film qui ne restera pas dans les mémoires, contrairement à la grande histoire d'amour qui est en train de naître depuis quelques semaines. Mireille Darc et Alain Delon ne se quittent plus.
Alain Delon enchaîne les films, dont Jeff et Madly, sur lesquels il a comme partenaire l'égérie de Georges Lautner, Mireille Darc. Ils tourneront 8 films ensemble. Nouveau coup de foudre qui scellera une histoire d'amour qui le marquera à jamais. Il dira de Mireille, près de 40 ans plus tard, lors de sa disparition, « Elle était la femme de ma vie, ma moitié ».
2 ans plus tard, alors que Delon est à Marseille pour tourner Borsalino et que le couple cherche un coin de soleil et de tranquillité, l'ami et agent de l'acteur, Georges Baume, leur fait découvrir Aix-en-Provence où il habite. Ils sont sous le charme et ne tardent pas à s'installer dans un hôtel particulier du quartier Mazarin, le plus ancien de la ville.
Pourquoi tu t'en vas?
Parce qu'on est deux.
Je comprends pas.
Facile à comprendre. Un jour ou l'autre, il n'en restera plus qu'un de nous deux. Faut mieux que je m'en aille avant, on finira par se tirer dessus.
Dans l'hôtel de Boisgelin, aux belles pierres ocre, construit en 1650 et classé monument historique, ils louent le vaste rez-de-chaussée qui leur permet de profiter de l'adorable jardin avec son imposante fontaine à vasque. Ils y font même percer une porte dans l'un des murs afin de pouvoir sortir discrètement et éviter les éventuels groupies ou paparazzi, et flâner dans les rues ou aller déjeuner aux Deux Garçons, la plus célèbre brasserie de la ville.
Tu sais que tu m'aimes?
Sûr.
Même après que tu m'auras fait l'amour.
Ça dépend de toi.
Ils y mènent une vie paisible, en famille, dans cette ville qui est encore une belle endormie, qu'une polémique va réveiller un peu. Alain et Mireille aimeraient bien pouvoir se baigner au saut du lit et faire construire une piscine. Une faute de goût majeure pour les habitants du quartier et les défenseurs du patrimoine. Une polémique qui en créera une autre. Mireille Darc aime bronzer au bord de sa nouvelle piscine en tenue d'Ève, conduisant un voisin, dont la vue donne sur le jardin, à déposer une main courante pour offense aux bonnes mœurs. Une protestation qui n'empêche pas l'actrice de continuer à lézarder nue sous le soleil aixois.
Je voudrais encore un peu de champagne.
Sommelier?
Parce que vous avez besoin du sommelier pour me servir. Et doucement, le champagne c'est fragile. C'est mon père qui m'a appris ça.
Ah oui?
Tiens, vous n'avez pas besoin du sommelier pour me tenir la main? Vous ne voulez pas coucher avec moi en plus, là, tout de suite sur la banquette?
Ils passeront 5 ans dans ce lieu dont la beauté laisse interdit, comme le dit Mireille. Et aujourd'hui, il n'y a aucune plaque pour rappeler aux nombreux touristes qui se baladent sur la jolie place des Quatre Dauphins que cet hôtel particulier a abrité l'une des plus fameuses idylles.
C'est un mot qu'elle m'a écrit, il doit y avoir 40 ou 35 ans, ou 35 ou 40, peu importe, qui résume à lui seul tout ce qu'est Mireille. Et c'est un mot que j'ai toujours avec moi depuis ces 40 ans et qui m'aide à vivre. Mon amour, il est 3 heures du matin et je n'arrive pas à dormir. Je pense à toi qui as tellement de mal à vivre. Je t'ai donné tout. Et j'ai simplement besoin d'un peu de calme et de tendresse. Et d'un sourire le matin parce que la vie est là et qu'il faut remercier le ciel d'être l'un en face de l'autre et de s'aimer.
Yeah.
Fais-moi croire que je sais danser comme Michael ou bien Beyoncé. Fais-moi briller pour oublier mon chagrin. DJ, fais-moi oublier que je suis pressé. Fais-moi planer sur du Marley. Fais-moi arrêter de penser à demain. DJ, je te confie mes nuits, je te confie ma vie sans hésiter. Tu sais comment me rendre vivant. DJ, je te confie mon cœur abîmé. Fais-moi changer de météo, fais-moi chanter comme un griot. Fais-moi voyager à Rio sans escale. DJ, fais-moi danser comme Travolta après deux, trois verres de soda. Regarde qui tue comme Chiquita en pétard. DJ, je te confie mes nuits, je te confie ma vie sans hésiter. Je sais comment me rendre vivant. DJ, je te confie mon cœur abîmé, je te confie tous mes secrets.
Profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Creuse.
En vous baladant du côté d'Ahun, dans le bourg, peut-être que vous avez déjà fait une petite pause pique-nique au jardin Jacques Lagrange, qu'on appelle aussi le jardin lapidaire. Mais c'est quoi son histoire ?
Nathalie Manot, je suis animatrice à l'Office de tourisme Creuse Sud-Ouest. C'était le jardin de la maison qui est là face à nous, ce très bel hôtel particulier, l'hôtel Joran. Mais avant même d'être le jardin de cet hôtel Joran, on imagine qu'ici nous sommes dans les fossés de la ville médiévale. Et ce jardin, il donne de la profondeur avec cette grande allée et ça donne encore plus de valeur et d'importance à cette belle maison. C'est vraiment une mise en scène architecturale. Le premier portail semble suffisamment large pour qu'un petit véhicule y passe. Le deuxième est tout petit, mais ça donne cet effet de longueur.
Pourquoi on appelle aussi ce jardin le jardin lapidaire ?
Parce que autour de nous, il y a plein de pierres. Alors, ce sont toujours des pierres anciennes qui sont là pour témoigner de l'histoire d'Ahun. C'est un peu comme un musée à ciel ouvert qui nous raconte l'histoire d'Ahun depuis l'époque gallo-romaine, à Citodunum à l'époque, jusqu'à nos jours. Jacques Lagrange, il a acheté dans les années 90 cette maison et à sa mort, sa compagne a légué le jardin à la municipalité et elle a demandé à ce que ce jardin devienne un jardin lapidaire, donc un jardin souvenir, historique, promenade. Jacques Lagrange, c'était un artiste. Alors, il n'était pas creusois d'origine, mais il a beaucoup aimé la Creuse. Il est venu ici pour aller auprès de Jean Lursa faire des tapisseries à Aubusson. Il était peintre, il était cartonnier, il était grand collectionneur. C'est aussi pour ça qu'il voulait une grande maison. Il collectionnait les horloges de gare, les enseignes de magasins. Ça prend beaucoup de place. Il a contribué à l'architecture. Enfin, c'était vraiment un artiste avec plusieurs facettes. Et il aimait se trouver ici, dans la Creuse, dans cet espace très naturel, avec une histoire riche. Alors, je vais te dire mon coup de cœur. Et en regardant bien la frise végétale qui est là sur le pignon, on va le trouver ce cœur. Il est en bas, à gauche, il est très stylisé. C'est vraiment un motif que Jacques Lagrange utilisait beaucoup dans ses tapisseries, dans ses peintures. Donc cette frise, elle représente une branche. Il l'avait dessinée pour illustrer le poème d'un de ses amis, Eugène Guivic. Et ce poème s'intitule « Temple du Merle ».
Marie-Ève,
et Geoffroy.
Notre fille prend des cours de piano juste à côté. En attendant son cours, on aime bien se promener ici, oui.
Il y a des urnes funéraires, c'est un petit site archéologique. C'est sympa, puis il y a de jolis, des petits buis qui sont bien taillés. C'est un joli jardin.
La prochaine fois que vous passez par le jardin Jacques Lagrange, jetez un œil à ce petit cœur sur la façade.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast Ici Gironde.
Bonjour, je m'appelle Gérard et je suis l'un des propriétaires donc de ce carrelet depuis plusieurs années. Maintenant, nous rentrons dans notre 11e année. Là.
Gérard est béglé à la fois en tant que propriétaire de sa maison d'habitation et de son carrelet situé sur les bords de Garonne. Un carrelet tout vert qui est un vrai lieu de rencontre entre amis, mais aussi parfois de solitude et de calme. Son carrelet s'appelle Charivari, mais c'est surtout le nom de ce Girondin qui m'interpelle, car Gérard appartient à la famille des Montiel.
Oui, c'est mon frère, c'est Bernard, c'est mon frère. Je suis l'aîné, nous sommes 5 enfants.
Est-ce qu'il est venu ici ?
Pas encore.
Il n'aime pas les carrelets ?
Je crois que... il est très occupé.
Qu'est-ce que vous activez là ? Une sorte de manivelle ?
Oui.
Pour le filet ?
Pour le filet. La pêche au carrelet, c'est ça.
Et le filet du carrelet, il est carré ?
Il est carré, que l'on descend et que l'on remonte pour pêcher les poissons qui auraient l'audace de passer là.
Qu'est-ce qu'il vous permet de faire au quotidien ? Pourquoi vous l'avez choisi, vous, personnellement ?
Alors ici, ben justement, parce que c'était le plaisir d'avoir un espace de pied-à-terre, alors où on peut recevoir des amis, de la famille, où on vient passer un moment, on vient parfois pêcher.
Lieu de convivialité, mais lieu extrêmement calme, apaisant.
Voilà, c'est un endroit paisible, quoi, et à quelques pas de Bordeaux, hein, c'est ça qui est intéressant, quoi.
Est-ce qu'on peut le décrire, justement, ce carrelet, qui n'est pas très grand, mais tout de même, il y a 2 cabanes dans le carrelet.
Il est comme il est un peu de guingouin. Ce qu'on fait, nous, c'est de le maintenir en l'état et surtout de ne pas le transformer en bois.
Ce carrelet Charivari, il est vert.
Et comme la nature autour.
Vous avez la plancha.
Oui, parce que ça nous permet de faire quelques grillades et puis de se reposer tranquillement. Mais effectivement, c'est un lieu paisible. Et alors, il y a beaucoup de gens qui, quand on laisse parfois la porte ouverte et qui voient qu'il y a quelqu'un, sont là, ils viennent voir, ils s'arrêtent un petit peu. Bon, moi, quand je suis là, je leur ouvre la porte. Ils ne savent pas trop ce que c'est vrai, parce que c'est quand même un patrimoine, ces carrelets.
Posséder un carrelet, est-ce que ça donne l'impression, justement, de maîtriser un petit peu la sauvegarde du patrimoine girondin et donc de ces cabanes de pêcheurs ?
Momentanément, on en fait partie. Puisque ce sont des contrats à durée limitée, hein. C'est 5 ans renouvelables.
Donc ça veut dire que tous les 5 ans, vous avez un peu la pression.
Voilà, c'est un peu normal. C'est des contrats de 5 ans, c'est comme ça.
Vous êtes né à Casablanca.
Oui.
Vous êtes arrivé en Gironde dans les années 60, 1961. Très vite, vous êtes passionné pour la Garonne et pour ses carrelets.
Oui, parce que notre premier pied-à-terre a été à la Cité Lumineuse, à Bordeaux-Nord. Qui a été démoli maintenant. Déjà, nous, enfants, on jouait sur les bords de Garonne à faire des radeaux, etc. Puis l'eau partout, c'est quand même un élément important dans la nature.
Gérard Montiel, copropriétaire de ce carrelet, le Charivari, face à la Garonne et à l'île d'Arcin, le carrelet d'un homme qui a trouvé sa cabane de pêcheur.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici au CERF.
Ce prix les fait voyager depuis 2012. Il a été créé à l'initiative d'un prof documentaliste et d'une bibliothécaire des lycées Jeannot-Écurie de Sens. Chaque année, de novembre à avril, des centaines de jeunes découvrent des mangas sélectionnés avec soin. L'an dernier, 160 établissements y ont participé, et pas seulement dans Lyon. Sayonara organise aussi de multiples rendez-vous tout au long de l'année autour de la culture et des arts japonais. Cette fascination des jeunes pour la culture du pays du soleil levant ne date pas d'hier. Commencé dans les années 80 à la télé avec Récréa 2 et le Club Dorothée, le Capitaine Flamme et Albator ou Goldorak ont marqué toute une génération.
Père, oh, Actarus, ils attaquent en force avec un antirac. Il faut que tu ailles aider Alcor. Bon, je vais y aller.
Et puis, les consoles Super Nintendo et Sega ont débarqué. Des consoles avec des personnages cultes comme Sonic et Mario. Dans les années 90 et 2000, Pokémon, Dragon Ball Z et Naruto ont pris le relais, renforçant l'attrait des enfants et des ados pour le Japon. Aujourd'hui, l'influence japonaise s'étend au cinéma, à la BD et même à la musique. Oshi en est l'exemple parfait.
Écoute, tu ne dois pas avoir peur. Abandonne ta
Dans Lyon, Sayonara est un tremplin pour aller encore plus loin grâce au prix littéraire. Les jeunes découvrent des mangas plus originaux ou exigeants que ceux qu'ils lisent d'habitude. Ça stimule leur curiosité, aiguise leur sens critique et leur apprend à varier les plaisirs tout en alimentant leurs rêves de Japon.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
Sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds de moi.
Oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici mène.
avec la toute nouvelle voie de la salle Climb Up au Mans. Imaginez être en fauteuil roulant, mais pouvoir grimper à 10 mètres de haut. C'est l'objectif de cette voie en phase de test pour toute la semaine, avec un système qui défend l'escalade pour tous. C'est appelé le footing vertical. C'est développé par MBS Industries, l'entreprise de Bassa et Michael Mawem, deux frères champions de la discipline. Bassa est donc venu dans la salle Climb Up au Mans présenter son dispositif, et je l'ai testé pour vous. Direction donc l'avenue du Panorama au Mans. Dans la salle, un groupe de personnes en fauteuil roulant sont donc devant la voie et attendent de pouvoir y grimper. Une prouesse rendue possible par Bassa, qui présente son projet certifié il y a tout juste quelques jours et fruit de nombreuses années de recherche. Rodolphe, encadrant d'escalade depuis 15 ans et membre lui aussi de MBS, se charge des démonstrations. Alors comment ça se présente? En fait, c'est assez moderne puisque vous avez un boîtier tout en haut et un petit boîtier tout en bas. Tous les deux accrochés au mur et connectés en Wi-Fi, on s'approche de la voie et là, deux possibilités. Si vous êtes par exemple en fauteuil et que vous ne pouvez pas bouger vos jambes, on vous place un harnais dorsal. Si vous pouvez bouger vos jambes, on vous équipe d'un baudrier classique. Dans les deux cas, on vous accroche ensuite au système d'enrouleur à moteur. La grosse corde vous soulève d'abord légèrement de manière à pouvoir calculer votre poids pour adapter ensuite l'assistance.
En fait, c'est exactement comme un vélo électrique. On peut vraiment dire que c'est le vélo électrique de l'escalade. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas d'action musculaire, la machine ne va pas vous aider. Elle ne vous aidera que si vous mettez une action musculaire. Donc, on a bien les muscles qui fonctionnent, la motricité qui fonctionne. On parle bien d'assistance et on n'est pas treuillé. C'est vraiment la grosse différence qu'il faut noter et c'est très important de la faire.
Et Rodolphe, que vous entendez, peut ensuite contrôler la descente ou la montée directement sur le logiciel de son téléphone. Alors, chacun leur tour, des membres d'associations du handicap viennent tester le dispositif. C'est le cas de Louis, 31 ans, atteint d'infirmité motrice cérébrale qui lui rend l'usage difficile de ses muscles et donc de ses jambes. Il redécouvre la discipline qu'il a pratiquée une seule fois dans sa vie.
J'ai vraiment senti les sensations comme si... Comme normalement en fait, enfin quasiment comme normalement parce que je suis quand même tracté par le mécanisme.
Et à chaque fois c'est la même chose, des sourires, la sensation d'une liberté retrouvée et la possibilité de prendre de la hauteur bien loin du fauteuil de tous les jours, c'est hyper impressionnant. Je l'ai testé moi aussi en exclusivité mondiale et évidemment je suis le seul sur qui ça n'a pas marché tout de suite.
Pas de chance que ça tombe avec toi, alors est-ce que tu peux monter un peu?
Ouais.
Vas-y, monte
okay.
Un petit peu.
Allez.
Et laisse-toi redescendre.
Ouais, les sensations sont quand même impressionnantes, j'ai réussi finalement à pouvoir le faire. On a l'impression en fait d'une escalade sans risque, en douceur, parfait d'ailleurs si vous avez peur du vide, par exemple. Alors, toute la semaine, des groupes ont été invités pour le tester, mais si vous voulez, vous aussi, essayer individuellement, c'est possible. Chaque soir, à partir de 18h, et franchement, ça vaut le détour, c'est novateur, inclusif, testé, et à 200% approuvé par Icymen.
Écoutez Ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici Occitanie.
Bon, tout va bien, Sébastien ?
Ouais, tout va bien. Oh, moi, je fais une belle balade avec vous. Par contre, il va falloir s'arrêter, Claire, pour faire l'interview.
Bon, attendez, je m'arrête là. J'attends le plat. Ça y est, c'est bon.
Ah, ça fait bizarre. Hein. Bonjour, Claire Gombeau.
Bonjour, Sébastien.
Vous faites partie de l'association À Vélo Sans Âge à Toulouse. Et d'abord, on va raconter un peu votre... Avant de raconter ce qu'est l'association, on va raconter votre parcours. Vous êtes retraitée, mais qu'est-ce que vous faisiez dans la vie?
Alors, j'étais institutrice au départ, puis chef d'établissement. Donc, pendant plus de 38 ans, je me suis occupée des pitchounes.
Et à la retraite, quand arrive l'heure de la retraite, vous vous dites quoi?
Je me dis, oh, chic, je vais me poser. Et... patatras, je lis un article dans un journal qui raconte l'odyssée d'un vélo sans âge. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est génial. Je les appelle et ils me disent, il n'y a pas d'antenne entre Bordeaux et Nice, Claire, il faut que tu en montes une.
C'est quoi ce slogan?
Du vent dans les cheveux et de la lumière dans les yeux, c'est magique.
Ouais. Alors que fait l'association?
On propose aux personnes à mobilité réduite ou personnes âgées, isolées ou en EHPAD, des balades en triporteur. Figurez-vous que vous avez deux personnes devant et un bénévole derrière qui pédale.
Et c'est génial parce que évidemment vous mettez des étoiles dans les yeux des personnes que vous transportez, notamment des personnes âgées et ce couple qui pourrait en être un, Émile et Gaston, deux copains.
Oh, Émile et Gaston, magique. Quand on a ouvert l'antenne, Gaston a inauguré le premier triporteur. Il avait mis la cravate de son mariage, trop fier, en disant « Aujourd'hui, c'est jour de fête ». On est parti place du Capitole, où on a été accueillis par le maire. Gaston était le roi du jour. Tout le monde voulait monter avec lui pour découvrir ce drôle d'engin. À la suite de cette première balade, il ne ratait jamais, jamais une balade avec son copain Émile.
Quel âge tous les deux?
Je pense qu'Émile avait déjà 91 ans et Gaston devait en avoir 92. On a emmené des personnes jusqu'à 104 ans.
Ah, magnifique. Il y a aussi la petite Élise.
Élise, extraordinaire, une jeune autiste qui, quand elle arrive, elle hurle de joie, de je ne sais. Et à partir du moment où elle s'installe sur le triporteur, elle s'arrête net, les yeux pétillent, elle sourit pendant toute la balade et dès qu'on rentre et qu'on remet le pied à terre, elle se remet à hurler. C'est quand même magique.
Et vous alors, le bonheur que ça vous procure, vous nous en parlez ?
Honnêtement, ce sont les personnes qui nous le transmettent parce que ce sont que des sourires, que du bonheur. Et j'avoue qu'il y a des jours où on se donne un petit coup de pied dans le derrière pour y aller parce qu'on a la flemme. Mais quand on rentre, on se dit « heureusement qu'on y est allé, c'est magique ».
On repart, Claire ?
Allez, on y va, en route !
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast Ici Vaucluse.
Le saviez-vous, tous les jours, on prend 2 minutes pour découvrir les histoires méconnues du Vaucluse. Et ça, c'est avec vous, Maxime Perron. Bonjour.
Bonjour Mathieu et bonjour à toute l'équipe.
Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un surnom assez surprenant. Je pense que même les habitants de Villeneuve-les-Avignons ne connaissent absolument pas cette histoire. Alors certains des habitants ont des surnoms. Alors c'est le cas à Nîmes, hein, on les appelle les crocodiles là-bas. Et donc Maxime, vous nous dites qu'à Villeneuve-les-Avignons, les habitants sont surnommés les lézards.
Oui. Alors les lézards, ouais, c'est plutôt étonnant parce que derrière en fait ce surnom un peu amusant se cache une véritable histoire médiévale à la frontière entre la réalité et la légende. Une histoire qui commence donc au XIVe siècle avec un personnage aujourd'hui presque oublié, Pierre de Luxembourg.
Vous parlez de Pierre de Luxembourg, c'est qui ce monsieur ? C'est un roi, un pape, un cardinal ?
Un cardinal, oui. Oui, c'est ça. Un cardinal très jeune d'ailleurs, connu pour sa vie pieuse, son humilité et sa générosité. Il vit à Villeneuve-les-Avignons, dans un palais où il refuse le luxe et meurt d'ailleurs au même endroit en 1387 à seulement 26 ans. Après sa mort, sa réputation de sainteté est telle que ses reliques deviennent immédiatement un enjeu majeur. Et c'est là, en fait, que la rivalité avec Avignon commence. La ville d'Avignon souhaite récupérer les reliques pour les honorer, mais les habitants de Villeneuve-les-Avignons considèrent ces restes comme un trésor inestimable, presque sacré. Voilà. Alors les Avignonnais font une proposition spectaculaire. « Nous vous donnerons autant d'or que la caisse des reliques peut en contenir ». Ah, c'est une proposition alléchante. Et pour les habitants de Villeneuve, cette offre est difficile à refuser. Alors ils vont accepter. L'échange se fait entre les deux rives du Rhône, d'une manière très solennelle. Les reliques partent à Avignon dans l'église des Célestins, construite spécialement pour ces reliques quand même. Et les Villeneuvois repartent avec une caisse identique, censée être donc remplie d'or.
Censée, parce que ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, c'est ça ?
Bah oui, parce que selon la légende, une fois la malle ouverte, les pièces d'or se transforment en milliers de lézards. Des lézards qui s'échappent aussitôt, qui filent dans les rochers de Villeneuve et disparaissent autour de la ville. Une histoire racontée dans des archives et des récits anciens comme une punition symbolique de la cupidité. Depuis plus de 6 siècles, on appelle les habitants de Villeneuve donc les lézards. Et aujourd'hui encore, il y a quelques symboles qui se cachent un peu partout, sur certaines façades et sur la place notamment Jean Jaurès, où vous avez une statue de lézard. Je vous ai mis la photo dans l'article web. Comme le disait Frédéric Mistral, « Gai lézard, bois ton soleil, l'heure passe trop vite et demain, il pleuvra peut-être ». À Villeneuve-les-Avignons, être un lézard, ce n'est pas juste une moquerie, c'est presque une philosophie de vie.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici Gascogne.
Aujourd'hui, on s'offre une balade à Cap-Breton où histoire, nature et patrimoine se rejoignent, la maison de l'oralité. Notre guide, Véronique Gabaud, responsable du pôle culture de la ville de Cap-Breton.
Cette maison, en fait, c'est une des rares traces de l'époque du Moyen-Âge à Cap-Breton, avec la maison du Rey, la maison du Roi. On a voulu préserver ce bâtiment en 2013. La ville a choisi de dédier ce lieu à l'histoire de la ville. Et puis, il y a une autre spécificité à Cap-Breton, c'est que depuis 35 ans, on organise un festival du conte. Et puis, surtout, à Cap-Breton, il y a plein de légendes, certainement dues au fait que Cap-Breton soit un port et qu'il y a eu beaucoup d'histoires maritimes. À Cap-Breton, on aime parler. Et du coup, on a un pôle dédié aux arts de la parole et du récit. Et cette maison de l'oralité, on y propose des accueils en résidence d'artistes qui viennent à Cap-Breton pour créer des spectacles. Et on a aussi pas mal d'actions culturelles, de médiation, pour faire découvrir l'art du récit, l'art du conte à tout public.
Est-ce que quand on visite la maison de l'oralité, on a accès à des histoires, des contes ?
On découvre l'histoire de Cabreton, mais au fil de la visite, il y a parfois des podcasts qu'on peut écouter, issus notamment de ces fameux projets de médiation. On a eu un projet avec des scolaires qui s'appelle Bestiaire du Gouffre. Donc c'est un bestiaire imaginaire autour de ce fabuleux canyon sous-marin. On a aussi un podcast sur la légende de la Taurelle. La Taurelle, c'est une tradition à Cabreton. On se retrouve le soir du 24 décembre autour d'un grand feu. Mais quelle est l'origine de cette tradition ? Ben justement, on est allé à la rencontre des habitants. On a essayé de comprendre d'où ça venait et puis surtout comment ils la vivent. Donc, on peut écouter tous ces témoignages. Et au mois de mai, à la période du festival, on a toujours une exposition temporaire qui fait le lien avec le Festival du Conte. Et cette année, ça s'appellera Radio Estacade. Parce que ici, on aime bien les rumeurs dans la ville et les légendes, comme je le disais. Donc, on aura une installation qui nous raconte justement ce patrimoine maritime, la vie des pêcheurs, la vie des habitants et leur attachement au port. Mais c'est élargi aussi au patrimoine naturel et immatériel. Donc, immatériel, vous l'avez compris, c'est un peu l'oralité et les légendes. Et puis, naturel, ben, bien sûr, on parle des traditions de Cabreton, de la forêt landaise, du gouffre. C'est un lieu, en fait, qui permet de comprendre l'évolution de la ville, comment elle s'est construite et ce qui est important aussi pour ses habitants.
La maison de l'oralité est ouverte gratuitement toute l'année. Des audioguides en différentes langue, y compris en gascon, recommandé par Ici Gascogne.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts.
Là, on est sous la tribune.
Sous la tribune gouache, oui, exactement. Donc, la tribune historique du stade Gilbert Brutus. Et on va aller réveiller la mascotte qui sommeille ici depuis le dernier match.
Et vous, Nicolas, vous faites quoi ici ?
Alors moi, je suis donc président de la Peigne de Canoës. Et depuis la saison dernière, j'endosse aussi le rôle de mascotte lors des matchs.
D'accord, c'est-à-dire on ne vous voit pas.
On ne me voit pas.
Voilà, et vous enfilez le costume.
Le costume là, qui se trouve juste ici. Donc les différents éléments, donc la tête et le reste du corps qui sort du pressing.
Donc là, on est un peu dans votre loge.
Voilà, dans ma loge à moi, donc avec mon coéquipier qui fait Drago, moi je fais Drax et on fait l'animation, l'entrée des joueurs, on salue les supporters et donc les photos avant le match.
Voilà, les mascottes, l'une est jaune, l'autre voilà, rouge.
C'est ça, aux couleurs des dragons, donc avec le nouveau maillot qui va être porté par la mascotte aussi. On fait toutes les animations liées avec les dragons, donc tous les événements qu'il peut y avoir et les différents matchs tout au cours de la saison.
Et alors, comment vous avez eu cette opportunité de devenir mascotte ? Il y a eu un appel d'offres ? Comment ça s'est passé ?
Alors non, je connaissais l'ancienne mascotte. Je lui ai demandé si jamais il y avait quelqu'un intéressé pour faire la mascotte, comment ça se passait. Et j'ai testé et ça m'a plu. Et du coup, je continue depuis l'an dernier.
D'accord, là on ressort donc.
On ressort de la tribune et généralement quand je ressors ici, c'est habillé avec le costume de la mascotte et on va saluer les supporters anglais lors des matchs et on va faire quelques photos près de la boutique et après on revient ici pour aller sur le terrain sortir avec les joueurs.
Mais dites-moi, vous aviez une âme d'artiste parce que c'est un petit peu spectacle là ce que vous faites.
Non, pas vraiment, mais bon, je suis un peu dans les associations, tout ça, donc ça me plaisait bien. Et une fois qu'on a la tête, ça, on change de rôle et ça permet de faire des gestes, aller serrer les mains avec les supporters, aller prendre les gens dans les bras quand ils nous tendent les bras, aller faire les photos avec des petits, voir les petits aussi contents de nous voir arriver en mascotte, de voir la mascotte, ça réjouit les petits. Les photos, les Anglais, beaucoup de supporters anglais aussi veulent leurs photos avec la mascotte.
Donc finalement, les gens ne savent pas que c'est vous à l'intérieur ?
Non, ils ne savent pas. Maintenant, certains vont savoir, mais dans mes proches et dans les membres de la peigne, il y en a qui savent que c'est moi à l'intérieur. Oui. Beaucoup ignorent et après j'aime bien leur dire je t'ai vu au match. Et eux, ils m'ont pas vu, mais je leur dis moi je t'ai vu. Moi j'aime bien, ça me fait voir autre chose du match.
Écoutez ici la nuit et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ICI Besançon.
6h-9h, ICI Matin, avec Loïs Paton et Anne Fauvarc.
Ai-je encore besoin de le présenter ? Arnaud Fromage est avec nous. Bonjour Arnaud.
Bonjour, bonjour.
Pour votre nécessaire minute comtoise, Arnaud, il y a quelques temps, vous nous avez expliqué pourquoi l'emblème de la Franche-Comté était un lion.
Mais je ne suis pas allé au bout du raisonnement. Pour rappel, la Franche-Comté adopte le lion vers 1278-79 quand le comte de Bourgogne, Othon IV, décide de se rapprocher du royaume de France. Il décide pour cela d'adopter le lion, le roi des animaux et symbole de la monarchie française. La Franche-Comté n'est d'ailleurs pas la seule région à arborer cet animal que l'on retrouve aussi sur les armoiries de la Normandie ou en Aquitaine et qui est tout autant le symbole de Belfort que de la ville de Lyon parce que oui, il y a une logique là-dedans. Mais voilà, maintenant qu'on a dit ça, reste une question. Pourquoi le lion, qui n'est pas le plus imposant des animaux et qui, soit dit en passant, est une sacrée grosse feignasse, a-t-il pu devenir le roi des animaux et pas la baleine bleue ou le chinchilla ?
Bon, déjà, ce n'est pas le cas partout, hein.
C'est vrai. En Asie, c'est plus souvent l'éléphant ou le tigre qui sont considérés comme les rois des animaux. En Amérique, c'est l'aigle qui règne aux côtés de l'ours, du jaguar ou du puma. En Afrique, le rhinocéros et le léopard sont aussi dans la place aux côtés, c'est vrai, du roi lion. Et en Europe, eh bien avant le lion, c'était l'ours qui était considéré comme le roi des animaux, mais tout va changer au Moyen-Âge. En gros, ce sont des histoires de symboles. Au Moyen-Âge, on se passionne pour la mythologie grecque, dans laquelle Hercule, qui était méga fort, a tué le lion de Némée, dont la peau était pourtant censée être impénétrable. Et puis, la crinière du lion est vue comme une sorte de couronne, ce qui fait bien plaisir aux souverains du continent, d'autant que, bon, l'Afrique, c'est méga loin et que personne n'ira vérifier.
Mais bon, un roi, c'est très humain, alors comment un animal peut-il être le roi de quoi que ce soit, quelque part, Arnaud ?
Là encore, vous marquez un point, mais ce qualificatif de roi des animaux, depuis qu'il s'est débarrassé de sa symbolique royale, est plutôt là pour qualifier ce qu'en zoologie, on appelle les super-prédateurs. Ces animaux qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire et qui sont relativement imprenables à la baston contre les autres espèces du coin. Et même dans ces cas-là, on devrait dire que ce sont les lionnes qui sont les reines, parce que ce sont elles qui chassent, mais seulement les reines de la savane. Bah oui, si on va par là, chaque type de terrain a son roi. Celui de la jungle amazonienne, ce serait plutôt le jaguar, et celui de nos forêts à nous, eh ben ce serait plutôt le cerf. Mais au fond, une grosse feignasse qui laisse les autres combattre à sa place, qui se fait nourrir et qui prend la lumière, est-ce que ce serait pas ça, la définition d'un roi ? Bon bah, je retire tout ce que j'ai dit, alors.
Retirez tout, retirez tout. Merci beaucoup, Arnaud.
Vous écoutez ici.